Bonjour tout le monde, ça va? Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre. On s'en va au chapitre 4. 1 Pierre 4. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Lorsque le Fils de Dieu, Dieu le Fils est au ciel avant de devenir Jésus de Nazareth, avant de s'incarner, il est au ciel. Il est à un endroit où il est littéralement adulé. C'est Dieu le Fils, les anges le célèbrent, célèbrent sa gloire. Donc, il ne souffre pas, au contraire. Il vit vraiment dans une béatitude extraordinaire parce qu'il est Dieu, un bonheur extraordinaire. Est-ce que vous êtes déjà demandé si avant de quitter son ciel, Dieu le Fils avait dû se préparer mentalement pour la mission qui l'attendait? Parce qu'il quittait la gloire pour venir définitivement souffrir. Et il allait souffrir toute sa vie, comme tous les êtres humains souffrent, mais ensuite de ça, souffrir différemment, parce que dans sa mission de faire connaître l'Évangile, faire connaître le royaume de Dieu, il allait être rejeté, puis ultimement, il allait souffrir à la croix. Un peu comme les athlètes qui se préparent mentalement avant une compétition puis qui prennent le temps de se dire « OK, voici ce qui va se passer, voici comment ça va se produire » ou des fois avant une entrevue, tu sais, tu as une entrevue que tu dois aller passer puis là, tu essaies de te préparer mentalement, OK, ils vont me poser telle question, il va arriver ça, qu'est-ce que je vais répondre ou encore le jour de la grande demande, tu sais, en mariage à ta dulcinée puis… T'as revu le scénario comme 100 fois dans ta tête. T'essayes d'éviter le « si elle dit non, qu'est-ce que je fais? » Je me sauve en courant, qu'est-ce que je fais? Je pars à pleurer, je la supplie. Non, mais t'es plus dans les autres scénarios, comment je vais le dire? Où est-ce que ça va se passer? Je vais choisir mon moment, puis est-ce que ça va être très théâtral, puis je vais me mettre à genoux, ou est-ce qu'on va y aller avec simplicité? Qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Est-ce que Dieu le Fils a eu à se préparer mentalement pour sa mission? Je pense que non, dans un sens, parce que lorsqu'il était au ciel, il était là dans toute sa divinité, dans toute sa gloire, puis je ne vois pas vraiment dans les Écritures Dieu devoir se préparer pour faire quelque chose. Dieu est parfait, il est souverain, il est tout-puissant, il était prêt, il est toujours prêt à faire le bien. Mais en même temps, une fois qu'il s'est incarné, qui est né comme un petit bébé, puis qui a pris cette nature humaine-là qu'on a très limitée, là, définitivement, Jésus-Christ, donc Jésus de Nazareth, l'homme, a eu à se préparer pour ce qui s'en venait. Et on le découvre à travers les Évangiles. Clairement, il nous est rapporté que dans les semaines qui ont précédé, les mois qui ont précédé le moment où il se rendrait à Jérusalem, il sait très bien ce qu'il attend, il va être crucifié. Il est définitivement en train de se préparer à cela dans le jardin de Gethsémané. Quelques heures avant, il est définitivement en train de se préparer à souffrir. Il embrasse à l'avance la souffrance qu'il va devoir supporter. Et dans le passage qu'on voit ensemble ce matin, l'apôtre Pierre nous exhorte à adopter la même mentalité que Jésus si on veut briller pour l'Évangile dans une culture qui n'accueille pas toujours facilement l'Évangile ou le christianisme. On va prier ensemble. Le Seigneur va travailler nos cœurs. Seigneur Jésus, ce matin, on vient pour t'entendre. On veut t'entendre nous parler. Viens nous parler à travers ta parole, cette sainte parole qui va nous être lue, qu'on va explorer ensemble, sur laquelle on va se pencher, est appelée aussi la parole de Christ. Et Seigneur, ce matin, on veut entendre ce que tu as à nous dire, parce que nous voulons apprendre à t'imiter aussi. Nous voulons adopter cette mentalité que tu avais, qui t'a permis d'accomplir fidèlement la mission qui t'avait été confiée, Seigneur. Alors, viens parler à nos cœurs, viens nous instruire, viens nous enseigner, Seigneur. Et si quelques-uns parmi nous ne te connaissent pas personnellement, intimement, Jésus, viens les rencontrer ce matin et fais-leur connaître l'œuvre que tu as faite en leur faveur en mourant sur la croix. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique ce matin est dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 6, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Pierre 4, versets 1 à 6. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit.
Merci, Esther. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile lorsque tu deviens chrétien. Renoncer à certaines choses que tu faisais avant d'être chrétien, à certaines passions que tu avais avant d'être chrétien, à certains péchés, ou renoncer à toujours faire partie de la gang. Je ne sais pas lequel des deux est le plus difficile. Je pense que ça dépend de chacun. Je pense que ça dépend de chacun d'entre nous. C'est clair qu'en devenant chrétien, je reçois énormément. Quand je deviens chrétien, je reçois la paix avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Lorsque je deviens chrétien, j'ai l'assurance que j'ai la faveur de Dieu. Tu sais, déjà, là, juste là, là, pour tous les renoncements que ça pourrait me coûter de devenir chrétien, c'est vraiment un bon deal de devenir chrétien. Malgré le fait qu'il y a des renoncements à faire, ce que je reçois vaut infiniment plus que ça. Je reçois quoi? Je reçois l'Esprit-Saint qui vient faire sa demeure en moi. Déjà, en devenant chrétien, je ne vivrai plus la solitude, par exemple, de la même manière que je la vivais avant. Parce que je sais que Dieu est présent, même quand je ne le sens pas, même quand je ne le vois pas, même quand ce n'est pas évident, je sais dans mon cœur, par la foi, que Dieu est présent, qu'il est avec moi. Je reçois la confiance, l'assurance dans mon cœur que ma vie ne s'arrête pas ici-bas. Ma vie ici-bas aurait beau être misérable et difficile, il y a des jours meilleurs qui s'en viennent dans l'autre vie puisque j'ai reçu la vie éternelle puis je m'en vais avec lui. Je reçois la famille de Dieu. Je reçois l'Église où bien souvent les relations vont plus loin, deviennent plus profondes. Puis l'Église n'est pas parfaite, on le sait, mais clairement, il y a d'énormes bénédictions de grâce à l'intérieur de l'Église. Je sais, ça fait quelques années maintenant que je suis chrétien. Donc, je sais que lorsque je deviens chrétien, je reçois infiniment plus que tout ce dont j'ai à renoncer. Mais il y a des renoncements. Il y a définitivement des renoncements. Il y a des choses vers lesquelles j'allais avant qui me semble nourrissaient quelque chose en moi, une passion qui était très agréable, au moins pour un temps, tu sais. J'avais des loisirs, j'avais des choses que j'aimais faire qui aujourd'hui me demandent soit d'y renoncer, soit de le faire autrement, mais parce qu'il y a quelque chose de malsain dans ça, parce qu'il y a quelque chose qui va offenser Dieu, qui est contre nature, même contre la nature humaine telle que Dieu nous a créés. Puis je vais devoir renoncer à ces choses-là. Puis j'ai appris avec le temps qu'en fait, le renoncement vaut aussi le coup parce que finalement, il y a beaucoup plus de bonheur à ne pas faire ces choses-là. Mais au départ, il y a un renoncement, c'est vrai. Puis il y a une autre dimension aussi, il y a un autre type de renoncement. C'est le renoncement à toujours comme suivre le flot pour faire partie de la gang. Juste comme me mouler au groupe puis dire « Ouais, ouais, c'est correct. Ah ouais, on va faire ça à soi. » Puis c'est pas une bière, c'est pas deux bières, c'est six, puis c'est huit, puis on continue, puis c'est parti pour le party, tu sais. Puis je choisis en devenant chrétien que j'ai d'autres priorités que faire partie de la gang. Et dépendamment, je pense, de nos personnalités, soit le renoncement à certaines choses, certaines pratiques, certains péchés, ou le renoncement à faire partie de la gang, un des deux peut faire plus mal. Ça dépend des fois de nos personnalités. Si t'es quelqu'un d'hyper sociable, qui justement, tu sais, se modelait toujours pour être dans la gang, puis t'as besoin des gens, tu te nourris de ça, puis ton habitude, c'est de fondre dans le groupe. On fait ça, let's go, on fait ça. T'es un petit peu mal à l'aise, mais on fait ça, je suis bien avec la gang. Et pour ces gens-là, il y a tout un renoncement. Hein? Lorsque tu dis « oui, mais pas à n'importe quelle condition. Je veux être avec eux, mais ça se peut que souvent je ne puisse pas être là ou pas de la même manière, puis je deviens le trouble-fête. Hein? Je deviens le casseux de party, comme on dit au Québec, parce que je suis devenu chrétien. » Ce matin, on va voir ensemble quand tu acceptes, comme Christ, de souffrir les jugements du monde, cela t'affranchit, te libère de bien des tentations pour briller pour l'Évangile. Je répète ça. Quand tu acceptes comme Christ, comme Jésus-Christ, de souffrir les jugements du monde, cela t'affranchit ou te libère de bien des tentations pour briller pour l'Évangile de Jésus-Christ. Pierre commence au verset 1 en disant « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Voyez-vous, la semaine dernière, on était toujours dans 1 Pierre, puis je prenais le temps de mentionner que dans les versets qui précèdent, Christ ne nous est pas donné comme un exemple à imiter. Pas dans les versets précédents. Dans les versets précédents, Christ nous est amené comme celui qui, par ses souffrances, a vaincu le péché. Par ses souffrances, a obtenu la résurrection. Par ses souffrances, a maintenant pleine autorité. Et ce n'est pas que moi j'ai pleine autorité, c'est que moi je vais me cacher dans sa victoire. Je trouve mon inspiration à savoir que je suis du bon côté de l'histoire. Vous vous rappelez? Parce que je connais la fin de l'histoire, je suis du bon côté de l'histoire. Je crois dans celui qui a vaincu. Maintenant, Pierre ici parle encore des souffrances de Christ et il dit « Maintenant, prenez-le en exemple. » Venez l'imiter. Et il dit, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. La préparation mentale de Jésus. Je n'irai pas dans une vieille joke, mais c'est là que ça se passe quand même. La préparation mentale de Jésus. Dès son enfance, dans son humanité, Jésus-Christ a appréhendé, il a anticipé, il a prévu les souffrances qui allaient venir. Non seulement il avait à souffrir comme tous les êtres humains, je veux dire, Jésus a sûrement tombé en jouant au soccer une fois, puis il s'est enfargé dans ses gougounes, puis il s'est planté une roche dans le genou, tu sais, puis il a souffert. Donc il a eu à souffrir comme tous les êtres humains, il a dû se faire tanner dans la cour d'école. Vous comprenez qu'il n'y avait pas de cours d'école, puis il n'y avait pas de gougoune, il n'y avait pas de soccer. Mais vous comprenez, il a dû se faire taquiner par des enfants, même se faire prendre à partie, pas parce qu'on le sait bien, toi tu te prends pour le sauveur. Non, c'était comme pas tout connu, ça là, au départ. Mais juste comme tous les enfants, comme tous les êtres humains. Mais assez tôt, on voit dans les Écritures que Jésus-Christ savait qu'il était en mission et que son Père terrestre, ou celui qui l'a élevé, il y avait un père plus grand que celui-là encore qui était son Père céleste. Et on trouve dans Luc, alors qu'à l'âge de 12 ans, il s'est rendu avec sa famille à Jérusalem, on lit dans Luc 2, 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » Donc, il grandissait dans sa compréhension des choses. C'est un être humain qui grandissait. Puis, il apprenait à réfléchir les choses, puis il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et puis, on lit au verset 49, voici ce qu'il dit, parce que, bon, à un moment donné, les parents l'avaient perdu de vue, puis il était resté quelques jours au temple, puis eux autres voyageaient avec des amis, fait qu'ils pensaient qu'il était avec la petite famille Langlois, puis là, il dit, attends un petit peu, il n'est pas là, fait qu'ils sont allés voir les Langlois, ils sont allés voir les Tremblay, ils sont allés voir les Bélanger, puis il n'est pas avec personne, où est-ce qu'il est? Ils sont retournés à Jérusalem, ils l'ont trouvé au temple. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Là, Jésus leur répond, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Réponse classique pour un jeune de 12 ans, hein? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais donc Jésus, très jeune, avait conscience qu'il était en mission et il était en train de considérer cette mission-là. Il y avait définitivement une préparation chez Christ. On lit dans la lettre aux Hébreux, en Hébreux 5, versets 7 à 9, parlant de Jésus, l'auteur dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc lorsqu'il était incarné, lorsqu'il était un être humain, a présenté avec de grands cris et avec larmes, pensez à ça, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Maintenant, c'est toujours surprenant la première fois que tu lis la suite. Il a appris, bien qu'il soit fils, dans le sens qu'il est fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les souffrances de Jésus de Nazareth ont contribué à sa propre formation à lui. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et donc, on voit à travers les Écritures que Jésus-Christ a dû se préparer à ce qui s'en venait, a dû s'assurer qu'il comprenait sa mission, a dû s'assurer qu'il anticipait les souffrances qui viendraient, et ces souffrances même ont contribué à quelque part à une croissance. Pierre nous dit, armez-vous de la même pensée. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Puis le mot grec qui est là pour armer, c'est un terme qui a une connotation militaire, d'accord? C'est vraiment me charger d'une disposition, me préparer mentalement, m'armer d'une pensée, me blinder, comme on dirait. Me blinder, me préparer à des souffrances qui vont venir. Je dois avoir la même disposition d'esprit que celle de Christ. Quand je préparais l'exposé, il m'est revenu, certains d'entre vous ont connu Colette, la mère de mon grand ami François Turcotte. Et puis Colette est avec le Seigneur maintenant, mais on avait partagé un témoignage de la part de Colette. Lorsqu'on est allé la voir à l'hôpital, on avait été tellement édifiés, on avait pris le temps de dire, « Tu veux-tu dire ça à l'Église? » Juste répéter ce que tu viens de dire, puis le partager avec l'Église. Puis Colette savait que le cancer récidivait, puis que là, elle connaissait les souffrances qui venaient, puis elle avait dit ceci. Elle avait dit, « Maintenant, ça va être le temps de mettre en pratique tout ce que j'ai appris depuis 20 ans. » Et donc, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de se préparer mentalement à la souffrance qui s'en venait, en s'assurant que ses deux pieds sont bien ancrés, bien déposés sur le roc Christ, et que sa foi est au bon endroit. C'est ça qu'elle était en train de faire, d'accord? C'est pas si étranger à la préparation mentale que des athlètes vont faire. Je ne vous parle pas de visualisation, je ne suis pas dans l'ésotérisme, là, vous comprenez. Je lisais un ultra-marathonien qui racontait que chaque fois qu'il va faire un marathon ou un ultra-marathon, il s'assure d'arriver quelques jours plus tôt et il va s'assurer de faire tout le parcours au complet. Pourquoi est-ce qu'il fait le parcours au complet? C'est parce qu'il dit, OK, si j'ai à m'enferger, ça va être ici. Il fait des courses en montagne, puis tout ça. Et il s'en va littéralement voir tous les obstacles. Voici la plus longue montée, il faut que je me prépare. Le souffle va venir beaucoup plus tard. Puis il prend le temps littéralement de faire ça, d'accord? Donc, il est en train d'anticiper la souffrance qui va venir pour se préparer lorsque ça va venir. Il est en train de s'armer d'une pensée qui le prédispose à faire face à ce qui s'en vient. Et c'est ce que Christ a fait. Christ avait anticipé les souffrances qu'il allait endurer. Il a accepté le prix qui venait avec la mission que le Père lui donnait. Et donc, pendant tout son ministère public, il a été méprisé, il a été rejeté. Il était rejeté par sa propre famille, ceux avec qui il avait grandi, ses frères et sœurs ne reconnaissaient pas en lui ce qu'il proclamait être, le Messie. Plus tard, certains vont croire, mais la famille l'a rejeté même à ce moment-là, se sont moqués de lui. Il était prêt à ça. C'était sa mission, c'était son appel, il s'était préparé à cela. Pensez-y deux secondes. Cette semaine, j'étais en train de méditer sur ça, puis je disais, Seigneur, je pense que je n'ai jamais réfléchi à cette préparation-là que tu avais. Armez-vous de cette même pensée. Oui, mais c'était quoi la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est qu'il connaissait son Père. Puis il connaissait l'importance de la mission qui lui était confiée. Il savait qu'il s'en venait souffrir sur la croix pour le salut des hommes. Il s'en venait payer pour les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. Il rendait possible une nouvelle humanité. Il s'en venait pour faire connaître son Père. Son attitude à travers la souffrance allait refléter qui est son Père. Et il savait cela. C'était son mindset. C'était sa préparation mentale. C'est la mentalité qu'il avait adoptée. Puis là, Pierre dit quelque chose qui peut sonner un peu étrange, d'accord? Il dit, « Ainsi donc, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais vous lire la traduction du Semeur, d'accord, qui des fois aide un petit peu à vulgariser. « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. » Et ce que je comprends de ce passage-là, c'est que Pierre est en train de nous dire, acceptez qu'il va y avoir un prix à payer. Acceptez qu'il va y avoir des renoncements à faire. Acceptez qu'il va y avoir une pression qui va venir de la part des pères, de la part de votre entourage, de la part de la culture, pour rentrer dans le moule, pour ne pas se distinguer, pour simplement ne pas déranger, d'accord? Et acceptez qu'avec ça va venir de la souffrance. Puis renoncer à certaines choses que vous pratiquiez avant va aussi engager de la souffrance parce que bien des choses qu'on faisait avant, c'était un endroit où on allait chercher un petit réconfort. Hein, la journée a été difficile. Puis je vais me soulager de cette pression-là par un péché quelconque. D'accord? J'ai besoin de mon fixe qui me permet de décrocher. Puis ce n'est pas simplement un repos, ça devient une dépendance, ça devient un péché. D'accord? Dans les tensions, qu'est-ce que je fais? Ah, je m'en vais naviguer sur le web, puis tout ce que je n'ai pas dans ma relation amoureuse, je vais le trouver avec des personnes virtuelles sur le web. Puis lorsque je décide d'embrasser la vie chrétienne, il y a un moment, il y a une période où je suis en train d'apprendre à dire, c'est pas là que je dois aller, je dois renoncer à ça, puis je dois vivre avec ce que je suis en train de vivre actuellement pour aller vers Dieu et faire la volonté de Dieu. Et donc, ce que Pierre est en train de dire, c'est que lorsque tu acceptes à l'avance ces souffrances-là, tu es affranchi de certaines tentations lorsqu'elles se présentent. J'étais en train de penser aux jeunes qui vont rentrer au cégep cet automne. Vous rentrez à l'université, puis au début à l'automne, il y a quoi? Il y a les parties, hein? Il y a les parties dans les différents départements, puis ça fête solide, là. C'est pas une bière autour d'un barbecue, là. Il y a des initiations, puis un paquet de choses, tu sais. Puis c'est le temps maintenant de te préparer. C'est maintenant que tu te prépares pour ça, parce que si tu veux faire la volonté de Dieu plutôt que la volonté des hommes, tu vas devoir renoncer à ça. Puis là, ça se peut qu'au moment où tout le monde est en train de poser des gestes pour s'intégrer, toi, tu poses des gestes qui font que c'est plus difficile de t'intégrer. Il y a une souffrance qui vient avec ça. À la fin de l'été, je vais aller avec quelques personnes de l'Église. Il y a un ministère qui est un peu partout dans le monde. Ça s'appelle les Red Frogs. C'est un peu drôle de dire ça au Québec, hein? Parce que c'est pas les French Frogs, mais c'est les Red Frogs. Ça vient d'Australie. Et puis, qu'est-ce que les Red Frogs font? C'est un ministère international. Ils sont habillés avec leur T-shirt. Ils sont connus par les organisateurs des parties étudiants. Et ils vont dans les parties avec une table, avec des bouteilles d'eau, avec des bartenders. Et le rôle qu'ils font là, c'est de s'assurer de la sécurité des étudiants qui sont en train de partir, tu sais, qui sont sur le party solide. Et puis, je vais aller avec ces étudiants-là, puis on va faire justement le contraire. On va être là pour aller jaser avec eux pendant qu'ils sont en train de se libérer, puis les consoler un peu, puis protéger des filles dans des situations délicates qui se retrouveraient dans un endroit un peu trop délicat, en état d'ébriété, puis qui pourraient se faire abuser. Puis on va être à contre-courant, on va être à contre-culture. Et peut-être que tu peux te préparer en venant avec nous à la fin août. Tu vas être prêt pour tes parties à toi, pour faire ça autrement ou décider si vraiment tu veux aller là. Mais voyez-vous, il y a une préparation parce qu'il y a une souffrance qui vient avec ça, parce qu'il y a des renoncements qui viennent avec. Et ici, Pierre n'est pas en train de dire « vous devez renoncer ». Non, ça, il dit plus tôt dans sa lettre. Il dit « vous n'êtes plus appelé à vivre comme vous viviez autrement, selon les principes qu'on vous avait enseignés. Vous êtes appelé à la sainteté comme votre Père céleste est saint. » Maintenant, il prend pour acquis que les chrétiens sont en train de faire ça, puis il dit « vous savez quoi? Si vous êtes fidèles là-dedans, il va y avoir des souffrances qui vont venir avec ça. Il va y avoir des souffrances. Il vaut mieux t'y préparer. » Parce que si tu es prêt, si tu acceptes à l'avance les souffrances qui viennent avec, les tentations vont être d'autant plus, moins puissantes envers toi. Parce que tu vas être libre de ça. Tu sais que la souffrance vient avec, tu sais que le rejet vient avec. Et tu l'acceptes, puis tu vis avec ça, puis tu vas être libre de ça. Il y a donc une préparation à faire, parce que tes choix ne seront pas toujours compris, et c'est souvent le cas... C'est souvent le cas que le fait de devenir chrétien trouble les gens autour de nous. Pierre dit, vous êtes troublant. Vous êtes choquant. Voici ce qu'il dit au verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir, par le temps passé, accompli la volonté des païens, c'est-à-dire des non-chrétiens, en marchant dans le dérèglement, la convoitise, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries. C'est assez de l'avoir fait. Maintenant, vous n'êtes pas appelé à ça. Et il dit, ceux qui vous entourent vont peut-être être choqués par ce que vous êtes en train de faire. Ils vont peut-être être surpris. Ils vont peut-être en venir à vous calomnier, à parler dans votre dos. Parce qu'avant de devenir chrétien, tu faisais partie de la gang. Tu faisais les choses comme la gang. Puis, ce n'est pas la fin de l'histoire, tout ça, parce que quand ça fait un bout de temps que tu es chrétien, il y a des relations que tu parviens à garder avec des gens qui étaient des amis avant que tu deviennes chrétien. Puis, à un moment donné, ils réalisent que, OK, tu n'es pas juste plate, tu es quand même capable d'avoir du plaisir. Puis, c'est juste que c'est peut-être un petit peu plus sain ton affaire. Puis, tu peux t'investir dans ces relations-là. Faites pas la même erreur que j'ai fait. Je n'ai pas été accompagné dans ma formation de disciple au début. Puis, quand je me suis converti, j'ai comme rompu. Je me suis dit, non, moi, je ne peux pas garder contact. Faites pas ça, de grâce. Allez demander des conseils à un chrétien plus mature, puis dites, comment je fais pour naviguer là-dedans? Je ne veux pas abandonner ces gens-là, je les aime tendrement. Mais je n'étais pas accompagné, donc la seule chose que j'ai pensé à faire, c'est que je ne peux plus vivre ce style de vie-là, fait que je me suis sauvé. C'est tellement triste. J'avais des amitiés tellement riches, tu sais, mais en même temps, on faisait des choses ensemble que je ne pouvais plus faire maintenant. Par conviction, j'étais plus bien avec ce qu'on faisait, certaines choses qu'on faisait, mais il y a tellement d'autres choses qu'on aurait pu continuer à faire ensemble. Et Pierre nous dit, bien, ça se peut que vous les surpreniez avec ça. Ça se peut qu'ils soient même choqués de ça. Puis dans notre culture, ça se peut que ce soit justement des parties, des fêtes, des conversations sur les relations amoureuses, des conversations sur qu'est-ce que tu fais, tu tombes enceinte, tu fais quoi avec ton enfant? Quoi? Non, tu es malade, tu ne vas pas le garder parce que... Ça peut devenir assez sérieux. Mais imaginons qu'on est dans une autre culture, puis plusieurs d'entre vous venez d'une autre culture où, par exemple, peut-être que vous venez d'une culture où ça fait partie de la culture et de la religion de la culture de rendre hommage aux ancêtres en priant les ancêtres. Je veux dire, il y a quelque chose de très honorable à rendre hommage à tes ancêtres, n'est-ce pas? Je veux honorer mes grands-parents, je veux honorer leur mémoire. Puis peut-être que dans ta culture, ça allait beaucoup plus loin qu'honorer la mémoire, une conviction qu'ils sont là, puis il faut leur offrir de l'encens, il faut leur offrir des offrandes, il faut les prier. Puis là, tu deviens chrétien, puis tu dis, mais là, maintenant, moi, je prie juste Dieu, je ne prie pas mes ancêtres, je ne peux plus faire ça. Mais imaginez la cassure! Si vous l'avez vécu, vous savez de quoi je parle. Imaginez l'offense pour la famille. Lorsque tu dis, attends un peu, tu ne viens plus honorer nos ancêtres avec nous. C'est quoi que tu fais là? C'est sérieux, c'est sérieusement offensant, non? C'est pas quelque chose de léger. C'est pas juste comme, hey, j'ai remarqué que tu arrêtes à la deuxième bière. Tu ne roules plus avec nous à la fin du party par terre. On n'a plus besoin de te ramasser inconscient. Comme t'es rendu plate. Non, c'est quelque chose de plus fondamental dans les valeurs familiales. Et certains d'entre vous, devenir chrétien a engagé une forme d'offense envers la famille. Pierre dit, ils sont surpris, ils ne comprennent pas. Et ils peuvent même prendre offense. J'ai une citation à vous partager de Tom Schreiner, un docteur de la parole, puis il parle de la réalité des conversions des gens qui devenaient chrétiens à l'époque de Pierre. Puis voici ce qu'il dit au premier siècle. Dans un monde polythéiste où on adore plusieurs dieux, chaque personne adorait plusieurs dieux. Peu de gens se souciaient si les chrétiens voulaient adorer Jésus. Dans le sens, un de plus, tu sais, why not? Cependant, si les apôtres osaient affirmer que les autres religions étaient idolâtres, incompatibles avec la véritable foi chrétienne, cela était très offensant au sein des sociétés. Il fait le lien avec notre culture, avec notre époque. À notre époque de pluralité, de mondialisation, le pluralisme multiculturel crée une vision du monde semblable à celle du polythéisme que Pierre a confronté. Toute spiritualité semble acceptable, sauf celle qui déclare que seul l'Évangile de Jésus-Christ est valable. Et donc, le fait d'affirmer que Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin, mais t'es bien intransigeant, t'es bien prétentieux avec ton Jésus. Je veux dire, tu peux me parler de lui jusqu'à temps que tu me dises c'est juste lui. Ouais, mais il y a juste lui qui est mort sur la croix. Puis ça, tu penses-tu que le reste de la planète Terre, c'est une gang de cabochons qui n'ont pas de bon sens? On peut-tu prendre le temps de prendre un café pour que je réponde à cette question-là? C'est plus compliqué que ça, la réponse. Tu sais, tu vois déjà l'offense qui est en train de se préparer. Et donc, si tu n'es pas prêt à faire face à ça, quand au bureau, tu vas anticiper que de t'afficher comme chrétien va faire qu'on va commencer à parler dans ton dos, mais ça se peut que tu décides de ne pas assumer cette souffrance-là. Si tu n'as pas anticipé que ça se pouvait que tu sois rejeté, peut-être que tu vas décider de ne pas t'afficher. Maintenant, à travers les années, je suis en relation avec suffisamment de chrétiens un peu partout dans le monde pour pouvoir affirmer ce que plusieurs d'entre vous qui venez d'autres pays connaissez. Les chrétiens ont un zèle différent là où le christianisme est franchement intoléré, non toléré. Les chrétiens ont un zèle différent lorsque le prix à payer pour devenir chrétien est beaucoup plus franc, beaucoup plus direct, beaucoup plus sévère. Et il y a un véritable piège pour nous dans le fait qu'il y a un prix à payer, mais ça ne veut pas dire que je vais être déshérité si je deviens chrétien. Il va me rayer du testament, il va me mettre à la porte de la maison, peut-être mettre un contrat sur ma tête. Je ne pense pas, on n'est pas généralement, en tout cas, venez nous en parler, si vous vivez ça, on va prier avec vous. Ici au Québec, peut-être dans votre pays, vous avez vécu ça. Et il y a un piège pour nous, parce que c'est plus pernicieux. Et ce qui est intéressant avec Pierre, c'est que les persécutions très très vives, où il y avait des chrétiens mis à mort en masse, n'ont pas commencé à cette époque-là encore. Ce n'est pas répandu dans l'Empire. Il y a eu des mises à mort, vous le savez. Si vous êtes familier avec le livre des Actes, vous savez qu'il y en a, d'accord? Étienne. Donc, il y en a, mais ce n'est pas répandu. Mais Pierre est là comme un bon berger. Puis il regarde, il met le doigt dans le vent, prend le pouls de la culture, il dit, je pense qu'elle ne sera pas facile, celle-là. Puis il y a des jours qui s'en viennent où je pense qu'on va être offensant pour la culture, même si on ne veut pas le faire, hein? On va être offensant pour eux. Et il faut qu'on se prépare à ça, parce qu'il y a une souffrance qui va être à payer pour ça. Alors, autant s'armer dès maintenant de la mentalité de Jésus, de la pensée de Jésus, qui disait, il y a un prix à payer, puis lorsqu'il va venir, je vais dire, Père, c'était écrit en gros caractères dans le contrat. Il n'y a pas de surprise, je savais que ça viendrait, maintenant, accorde-moi ta grâce, hein? Ce qu'on voit lorsqu'on étudie l'Évangile de Luc, c'est que c'est par la puissance de l'Esprit-Saint que Jésus-Christ marchait dans la volonté de Dieu. C'est vraiment impressionnant. La première fois que tu vois ça dans l'Évangile de Luc, c'est fascinant. Tu te dis, OK, attends un peu, c'était Jésus. Ouais, mais c'est par l'Esprit. Ça revient constamment dans l'Évangile. C'est par la puissance de l'Esprit. Fait que je peux m'armer de la même mentalité, de la même pensée. Puis lorsque les moments de souffrance viennent, je suis capable de dire, Seigneur, ce même Esprit-là qui était sur Christ est en moi. Maintenant, fortifie-moi, je veux me tenir droit. J'accepte les souffrances qui viennent. Puis je vais garder ce bon témoignage-là. Dans la cour d'école, avec les amis, pendant l'été où on se met à faire toutes sortes de choses, au travail, peut-être que tu es dans un domaine, dans une industrie. Chaque industrie a ses péchés propres. J'ai-tu raison de dire ça? Chaque industrie a ses petits mensonges, a ses petites fourberies, a ses exigences qui sont juste à côté, puis tu rentres là, puis tu peux te préparer déjà, là. Va rencontrer un chrétien qui travaille dans le domaine où tu t'en vas, puis dis-y, c'est quoi les souffrances qu'il y a à vivre comme chrétien dans ce domaine-là? Il va pouvoir te préparer à ça. Il va pouvoir t'équiper pour ça. Tu vas avoir une bonne idée de ce qui s'en vient. Et enfin, Pierre termine en nous disant que les jugements sont inévitables. Mais Pierre va beaucoup plus loin. Il ne s'en tient pas seulement au jugement humain. Les jugements sont inévitables. Tous nous serons jugés par les hommes et par Dieu. Par Dieu aussi. Puis Pierre veut donner un encouragement aux chrétiens en disant, « Sachez, rappelez-vous, qu'un jour tous les êtres humains vont être jugés par Dieu. Si les hommes vous jugent à cause de votre foi, rappelez-vous qu'un jour tous nous comparaîtrons devant Dieu. Tous nous comparaîtrons devant Dieu. » Alors il dit au verset 4, « Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient, ils vous jugent, vous êtes une offense pour eux, vous êtes une provocation pour eux, ils vous calomnient. » Et souvent, notre persévérance à faire le bien, à aimer, va permettre de gagner des gens à l'Évangile. Je voudrais dire une chose sur ça avant de terminer. Il y a un piège. Hein? On le dit souvent ici du haut de la chaire, mais le mode du cœur humain, le mode par défaut du cœur humain, c'est d'être des petits religieux. Un petit religieux, c'est quelqu'un qui prend la foi pour se justifier devant Dieu. Il y a des règles, il adopte des règles. Puis il y a un piège qui est réel. Quand tu décides d'accepter d'être différent, c'est que ça devienne un objet d'orgueil. C'est que tu t'enorgueillisses de ta différence comme chrétien. Moi, je ne fais pas ces choses-là. Moi, je ne vis pas comme ça. Je pense qu'en réalité, souvent, c'est de la faiblesse. C'est une espèce de réflexe pour se retrancher derrière nos barricades puis s'éloigner. Alors que Christ vivait de près, tout près. Il ne s'éloignait pas des gens. Il acceptait la souffrance. Vous ne voyez pas Christ se promener puis dire, « Vous êtes une gang d'impies, de tout croche, puis vous me rejetez parce que vous êtes toute une gang de tout croche. » Il a compassion d'eux. Il le rejette, il pleure sur Jérusalem. Il est sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et donc, si tu trouves le courage de t'armer de la même pensée que Jésus, puis dire, je sais qu'il y a un prix à payer pour m'afficher comme chrétien, il y a un prix à payer pour vivre la vie chrétienne, j'ai des renoncements à faire, certaines choses que je ne pourrais pas faire, puis des fois, je ne ferais pas partie de la gang. Le piège maintenant qui pourrait te guetter, c'est de devenir hautain avec ça, de t'enfler la tête avec ça, puis dire, nous, on est saints. Mais si tu es saint, mon homme, c'est juste par la grâce de Dieu. C'est juste parce que Dieu t'a fait grâce que tu es saint, parce que tous les jours, tu continues à pécher d'une manière ou d'une autre, puis tu vas vers le Seigneur, puis tu dis, « Seigneur, pardonne-moi. » On est des pécheurs graciés. Il n'y a pas de bon chrétien. Il y a Dieu seul qui est bon, d'accord? Christ est mort sur la croix pour nous. Alors, cherchez à éviter ce piège-là. Le courage d'assumer le fait que je vais être différent, ce n'est pas la liberté de m'éloigner des gens. Au contraire, ça me donne le courage d'accepter que entretenir la relation avec eux, m'approcher d'eux, va faire que des fois, ils vont être touchés par mon amour, D'autres fois, ils vont être offensés par mes choix. Et bien que Pierre ne le dit pas, j'ose le dire, des fois, c'est eux autres qui vont te reprendre. Puis ils vont dire, « Il me semble que tu es incohérent, monsieur le chrétien, aujourd'hui. » Ça, c'est vraiment intéressant quand ça se produit. Belle occasion d'annoncer l'Évangile en disant, « Sais-tu quoi, tu as raison. Tu as raison, puis je te demande pardon, j'ai été un mauvais témoignage, puis Dieu me fait grâce. Tu » sais. Mais ne faites pas un objet d'orgueil de ça. Au contraire, par la grâce de Dieu, on devrait être les plus humbles des hommes et des femmes partout, même si on cherche à être saints, d'accord? Parce qu'on a été rendu saint par l'œuvre de Jésus-Christ seulement, et ce n'est pas un objet d'enorgueillissement ou de gloire, ça. Et rappelez-vous que Dieu va juger. Dieu va juger les hommes. Et donc, je ne veux pas prendre une distance dans mon cœur des gens qui... de ton épouse qui n'est pas chrétienne ou de ton époux qui n'est pas chrétien ou de ton collègue ou de ton ami ou de ta petite sœur ou ton grand frère qui dit « Mais t'es malade, c'est quoi que t'es en train de faire? » puis qui commence à te juger puis tout ça. Puis je ne veux pas m'éloigner d'eux. Un jour, ils vont se présenter devant Dieu et ils vont être jugés par Dieu. Je dois rester tout près d'eux puis accepter qu'il va y avoir ça, il va y avoir cette souffrance-là qui va être là parce que Pierre nous a déjà dit plus tôt dans sa lettre ayez un bon témoignage auprès d'eux. Faites preuve de bonté afin qu'ils glorifient votre Père lorsqu'ils vont se présenter devant Dieu, afin qu'ils deviennent chrétiens avant de se présenter devant Dieu. Et je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais lorsqu'on était dans cette portion-là de 1 Pierre, j'ai dit, Pierre nous enseigne que dans toutes circonstances, même quand la culture nous est le plus farouchement opposée par son éthique, son style de vie, peu importe, il y a toujours moyen de trouver une manière de faire le bien qui résonne avec les gens. Des fois, c'est la douceur. Des fois, c'est le fait de ne pas se défendre, de ne pas répliquer, mais de continuer à être là. Des fois, c'est juste ça. Des fois, c'est d'accepter de se faire bâcher, comme on dit. Puis en même temps, après ça, dès que la personne vit quelque chose de difficile, sans aucune arrogance, dire « Écoute, tu permets-tu que je prie pour toi? Je le vois que c'est difficile, puis on n'est pas vraiment proche, mais... est-ce que ce serait une offense pour toi si je priais pour toi? » Ça s'arrête là, puis tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec ça dans la suite. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Quand tu acceptes comme Christ de souffrir les jugements du monde, cela t'affranchit de bien des tentations pour briller pour l'Évangile. Et Pierre nous appelle à nous armer. À nous armer d'une pensée où on accepte qu'il y a des souffrances qui viennent avec. Il y a des renoncements qui viennent avec le christianisme. Et cette semaine, je veux t'inviter, on est dans une période supposément plus tranquille, hein? C'est l'été, c'est le temps d'aller marcher, on se prépare aux vacances. Quels sont les domaines dans ta vie, au travail, à la maison, avec des amis, à l'école, lorsque l'école va reprendre, le cégep, l'université, quels sont les domaines où tu peux anticiper qu'il va y avoir certaines souffrances qui vont venir. À cause de ta foi en Jésus-Christ, ton style de vie qui est différent, les choix que tu fais, le message que tu apportes, tu sais très bien que ça va se produire. Prends le temps cet été d'anticiper ça, puis d'aller vers Christ, puis de dire, « Seigneur, je veux m'armer de la même pensée. Je veux accepter à l'avance ces souffrances-là qui viendront. Parce que toi, tu as accepté ces souffrances-là pour que je puisse être sauvé. » Enfin, si tu n'es pas chrétien, si tu es là et tu regardes tout ça et tu te dis, « Aïe, aïe, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ils doivent décider de souffrir, eux autres? » C'est parce que Jésus-Christ a souffert pour nous. Jésus-Christ a souffert sur la croix. Il a pris mes péchés et les tiens, si tu crois en lui. Il est allé payer le prix de tes offenses, de mes offenses envers Dieu. C'était extrêmement injuste comme souffrance. C'est Dieu le Fils. Il ne méritait pas cela. Mais il a embrassé ça volontairement. Il s'était préparé pour cette mission-là, afin que ceux qui croient en lui, Dieu mette nos offenses, nos péchés sur le compte de Christ et qu'on soit pardonné de nos offenses, de nos péchés. Et c'est de ça dont Pierre parle lorsqu'il dit que l'Évangile a été prêché à ceux qui étaient morts spirituellement. Ils étaient morts, maintenant ils sont dans la gloire de Dieu et ils ont cru avant de mourir. Ils sont ressuscités par l'Esprit. Et je t'invite à prendre cette décision-là. Il va y avoir un prix à payer, mais ça fait bientôt 30 ans que je suis chrétien. Le poids en vaut la chandelle, c'est ce qu'on dit? Le prix en vaut la chandelle. Vraiment, j'ai gagné au change en devenant chrétien. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut ce matin te célébrer, on veut t'adorer parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Tu as persévéré, tu t'étais préparé à ces souffrances qui venaient, Seigneur. Tu les as acceptées volontairement, librement, de ton propre chef. Tu as embrassé cette souffrance jusqu'à la croix. Et les Écritures nous disent que tu as été fait péché à notre place, Seigneur. Et à travers tout cela, lorsqu'on lit les Évangiles, lorsqu'on regarde ton attitude, c'est tellement beau de te voir, te confier dans ton Père. Puis même dans les moments où tu es prêt de défaillir, où tu souffres dans le jardin de Gethsémané, puis tu dis, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais tu t'étais préparé, puis tu as dit, non pas ma volonté, parce que là, je vois la souffrance qui s'en vient, mais ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, c'est ça que nous désirons. Nous désirons vivre selon la volonté de notre Père. Trop longtemps, avant de te connaître, nous avons vécu selon les passions des hommes, selon la volonté des hommes, Seigneur. On était dans l'ignorance, on ne connaissait pas tes voies, mais tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as fait connaître Christ, Seigneur. Et nous voulons briller pour ta gloire auprès des gens autour de nous qui peut-être ne comprennent pas, peut-être rejettent, peut-être nous calomnient, parlent dans notre dos, peut-être nous méprisent. Mais Seigneur, on était de leur nombre, puis on lutte encore si souvent avec le péché, Seigneur. On ne veut pas les mépriser, on ne veut pas les rejeter, on ne veut pas être hautain, Seigneur, on veut être humble, puis s'approcher d'eux acceptant. Il va y avoir une part de souffrance qui va venir avec ça, Seigneur. Parce qu'on veut leur faire connaître Jésus-Christ avant qu'il se présente devant toi, Dieu Tout-Puissant. C'est dans son précieux nom que nous prions. Amen. Amen.